variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bien, bonjour, Guy.
Voilà, nous t'entendons d'un peu loin, mais ça va, Bernard, que nous remercions à la qui assure notre technique, va rétablir la communication.
Ah oui, merci, voilà. Bernard.
Voilà, là, ça va très bien. Donc, encore bonjour, Hervé, et merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Alors, au sommaire.
Toujours.
Au sommaire de ce Variation en noir, premier Variation en noir de l'année 2020, un auteur et une destination dont on attend avec de plus en plus d'impatience la nouveauté. Il s'agit de Caryl Ferret, et donc nouvelle destination Colombie, avec un roman sorti très récemment à la série noire qui s'intitule Paz. Il faut aussi rappeler que Caryl Ferret a été le lauréat du prix Amila, Jean Amila Mecker, prix du livre d'expression populaire et de critique sociale, décerné le 1er mai à Arras dans le cadre du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Lauréat pour Zulu, je pense que c'était en 2000...
En 2009, je crois.
Voilà, exactement. Voilà, c'est une manière de faire la liaison avec la publication récente, la réédition d'un roman de Jean Mecker, Nous avons les mains rouges, aux éditions Joël Le Sfeld, avec une présentation de Stéphanie Delestrée, directrice de la série noire, et je vous le donne en mille, une présentation de Hervé Delouche, qui est aussi donc un très très grand connaisseur de l'œuvre de Jean Mecker. On reviendra sur cette réédition, Hervé, après avoir parcouru Paz de Caryl Ferret. Hervé, le nouveau Caryl Ferret.
Oui, on pourrait déjà. Tu as cité son titre. On peut peut-être dire que le titre contient une certaine ironie, parce que comme il s'agit de la Colombie, on sait qu'il y a eu il y a quelque temps un processus de paix, mais enfin la paix est assez peu présente dans les 500 et quelques pages de ce roman.
Oui, donc un petit mot quand même sur Caryl Ferret, avant de parler de ce roman. Donc ce que je disais, c'est un événement pas mal attendu, le nouveau Caryl Ferret, surtout dans sa série à travers le monde. Et quand on regarde, ses publications, et pour les personnes qui accumuleraient ses romans dans une bibliothèque, ça commence à prendre de la place.
Et puis Caryl Ferret, bon, le terme est devenu un peu galvaudé, mais à mon avis, enfin, tel que nous le connaissons par ailleurs, est un véritable écrivain voyageur, mais dans un sens vraiment fort de l'expression, parce que il avait commencé avec ses romans internationaux, j'entends, puisqu'il les écrit aussi pour... voilà, il se pose parfois pour faire des romans avec son un personnage récurrent qui se passe en Bretagne, des romans plus courts, mais il avait commencé avec Aka et Hutu et, en nous emmenant au profond de la Nouvelle-Zélande. Après, il y eut l'Afrique du Sud. C'était Aka et Hutu, avec, oui. L'Afrique du Sud avec Zulu. Mm-hmm. Et puis on est allé on a gagné l'Amérique du Sud avec Mapuche en Argentine, Condor au Chili, mm-hmm. et maintenant Paz qui se déroule en Colombie et qui on va avoir peut-être l'occasion de le justifier, mais à mon avis est encore une montée en puissance des thématiques, de l'écriture de Caryl Ferret, des personnages qu'il met en scène. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui. Alors, petite anecdote, Hervé, j'avais oublié mon conducteur pour... j'ai oublié mon conducteur pour préparer cette émission. Il n'y a pas que moi qui fais des oublis. J'étais surpris, je regardais justement la liste des romans de Caryl Ferret que l'on trouve à la fin de l'ouvrage, et il manque, c'est quand même surprenant, dans la collection Série Noire, il manque Codor. La liste est plus jamais seule, Mapuche, Zulu, tout. Alors je cherchais partout Condor, je dis qu'est-ce qui m'arrive, mais donc l'erreur était vraiment humaine, et l'oubli aussi. Non, tout cela pour dire effectivement, bon, t'as parlé de monter en puissance, écrivain voyageur, bon, c'est un roman, déjà si on en parle, c'est que c'est un roman qui nous a énormément plu, intéressé, qui est
secoué,
on peut le dire. Et justement, donc sur la marque de fabrique de Caryl Ferret, donc une destination, un voyage avec des amis, un peu sa bande, souvent un deuxième voyage pour affiner son enquête, sa documentation. Il donne sa méthode de travail. Il l'a déjà donné dans un certain nombre de textes.
Et aussi dans un livre paru chez Albin Michel que nous avions, je crois, chroniqué qui s'appelait « Pourvu que ça brûle ».
Voilà, et que j'ai...
Et où il écrivait justement, ouais. Il parlait de son feu sacré, il écrivait « Rêver, aimer, écrire et voyager. J'ai troqué mes lames de rasoir pour son fil, lame aiguisée comme un silex. » Les monstres de l'histoire sont toujours là, se réinventant sans cesse, et à partir de là, il disait que c'était ce qui était son moteur, qu'il faisait bouger, voyager, écouter, rencontrer des gens, et puis après se mettre au travail de l'écriture.
Alors dans ce même livre, Hervé, parce que je vois que nous avons les mêmes sources, page 277, il écrit « Plus je lis les livres de Nicolas Bouvier », L'usage du monde reste un chef-d'œuvre du genre, au niveau des écrivains voyageurs. Plus je perçois l'intelligence fine de ses remarques sur le voyage, le regard humain sans concession qu'il porte sur l'étranger en général, plus je doute de ma légitimité d'écrivain voyageur. Je n'ai pas son souci du détail, de la culture autochtone, m'attachant plus aux impressions, aux sentiments. Et en plus, il est modeste.
Il est modeste parce que ça n'est pas vrai. En fait, mais c'est bien d'être modeste, mais il faut rétablir les choses. Il est évident que les pages des précédents romans, mais a fortiori les pages de Paz, à mon avis, le prouvent. Il est évident que l'action se passe, puisque c'est un livre qui bouge beaucoup à l'intérieur de la Colombie, mais que l'on soit à Bogota, ou que l'on soit au plus fort de la jungle, ou que l'on soit dans les régions où les narcotrafiquants où les ex-guerrieros tiennent les lieux, on sent qu'il y a une documentation qui n'est pas que livresque, qui vient aussi de multiples rencontres, et une connaissance, enfin une compréhension des situations, des lieux, des personnages et des enjeux. Enfin, j'ai beaucoup ressenti dit cela.
Oui, en fin de compte, bon, Caril Ferré est un écrivain, c'est sûr, mais peut-être qu'il définirait mieux, c'est peut-être romancier voyageur, parce que je pense que la partie romanesque est aussi importante, très très importante pour lui, et donc il mélange les deux. Le voyage est important, mais il n'y a pas que le voyage qui porte son écriture, non. Je pense. Hein. Il y a cet aspect de la construction de ces romans. Alors,
je suis complètement d'accord. Si je peux me permettre, il y a une transformation justement de toutes ces choses vues ou entendues ou ressenties en une espèce de roman dense, mais en même temps qui cavale, c'est du grand roman d'aventure, en plus d'être du grand roman social, avec un exotisme pas du tout de pacotille, mais je veux dire par là qui nous emmène, qui nous fait découvrir des choses, et et par ailleurs dans ce roman là mais ça on va en parler je pense, se mêle il y a un choix de personnage peut-être un peu différent de précédemment, et il y a en tout cas la découverte de la Colombie et de tout ce qui est de toute la violence qu'elle contient, et des personnages à la fois terribles et d'autres très beaux, se mêle aussi avec une sorte de une tragédie, avec un père, deux fils, enfin voilà, et il réussit à mêler tout ça dans 500 pages qui se lâchent pas, quoi.
Alors donc justement, pour situer, après donc quelques années de paix signée, hein, on sait que la Colombie a été très longtemps fortement secouée par une guerre civile, hein, qui opposait le pouvoir, une guérilla marxiste, les FARC, voilà, oui. Hein, donc il y a eu un processus de paix qui a été mis en place, et donc une nouvelle période de violentia, avec des crimes tout aussi horribles que gratuits, vient mettre à mal ce processus dans le roman, hein, le processus de paix dans le roman de Caril Ferré. Le pouvoir donc va chercher à cacher cette situation et charge donc le chef de la police criminelle de Bogota, Laturo Bagader, de mettre fin à ces crimes, et ce policier donc se trouve à la tête d'une unité policière d'élite. Il est secondé par le lieutenant Duque. Alors petite histoire, hein, tu l'as déjà. Donc Laturo, le chef de la police, a un frère, Angel, qui lui a suivi plutôt un parcours complètement différent, puisque lui il s'est engagé dans les FARC.
Il était autant Lautaro, le policier, quelqu'un de sombre, enfin bon, d'ailleurs il a une épaisseur qu'on découvrira, autant Angel avait un côté plus plus romantique, plus attiré par la culture. Il était à la fac, il a fréquenté les milieux de gauche, d'extrême gauche, et il va rejoindre les FARC, oui.
Voilà, et donc deux frères en rivalité, avec particularité, et ce qui permet à Caril Ferré de parcourir les coulisses du pouvoir, vraiment, du pouvoir présidentiel de la
Colombie,
puisque leur père est une sorte de ministre de la justice, un procureur général du pays, et qui manipule beaucoup de choses au niveau de ce pouvoir colombien, et quelqu'un de très très proche de la présidence, d'autant que Caril Ferré a choisi de situer aussi son roman pendant une campagne d'élection présidentielle.
Oui, on a comme ça, on peut voir aussi les dessous de tout cela. On peut s'attendre à des rebondissements également dans ce domaine-là, mais c'est ça qui est très fort, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire, elle va être portée par ces personnages, par les deux frères notamment, même s'il y a une foule d'autres personnes qu'on croise, mais justement, c'est quand même c'est très fort déjà de cette utilisation d'un policier qui n'est pas du tout un personnage avec lequel on peut d'entrée de jeu avoir une très grande empathie. Il dit dès le départ, Lautaro avait écrémé la flicaille fournie par son père pour constituer son unité d'élite. Il avait sécurisé des quartiers entiers, balayé devant la porte des politiques qui auraient pu lui compliquer la vie, mis des gens dans sa poche comme on y enfonce le poing, repoussé la chienlit, nettoyé les rues des crasses humaines qui pullulaient à Bogota sans repos ni merci. On le disait cynique, raciste, violent, sexiste, impitoyable, retors. Lautaro Bagadère emmerdait son monde. Comme point de départ, évidemment, on est assez loin d'un héritier moderne de Philippe Marlowe. Voilà. Mais par rapport à la... justement, lui, on va découvrir qu'il n'est pas que cela. Son frère, qui est évidemment un côté qui pourrait paraître plus sympathique, n'a pas également évidemment du sang sur les mains. On va le retrouver au sortir de son engagement dans la guérilla. Et puis il y a ce père, effectivement, comme tu l'as dit, totalement manipulateur, qui lui-même n'est pas un homme de sentiments, de tendresse, et qui est prêt à tout, lui, cette espèce de patriarche qui a eu une longue carrière politicienne. Et ça fait un trio terrible. Et puis il y a tous les personnages, c'est compliqué d'en parler tellement on croise de gens
on va peut-être s'arrêter sur les... Il y a deux personnages féminins aussi très très importants, une journaliste d'investigation, et aussi une arriver dans le roman par une rencontre avec Lautaro, et puis je lis un petit passage,
c'est
puis Diana
Douzane, par ailleurs, et qui porte aussi dans le roman, elle est un peu porteuse de l'histoire et de la mémoire de la Colombie aussi.
Voilà.
Oui.
Et ça permettra aussi de donner un petit peu une idée du sens de la formule de Caryl Ferré. Elle avait couché avec le chef des flics comme une conne, et elle lui cherchait des poux dans la tête plutôt que de balayer les lentes devant sa porte. Voilà. Donc, comme ça, vous êtes au courant. Et puis donc, il y a une travailleuse sociale qui, elle, accompagne les anciens du FARC dans leur réintégration dans la société, et notamment elle accompagne Angel, donc le frère de Lautaro, dans ce chemin. Donc des personnages aussi vraiment alors c'est vrai,
oui,
que...
je crois d'ailleurs que c'est elle, à un moment il est question d'elle, on lui disait qu'elle finirait mal, elle répondait qu'il était facile d'abdiquer en Colombie et refusait de vivre comme une autruche parmi les hyènes qui se nourrissent de la charogne. Et il y a comme ça, et elle est emblématique d'un certain nombre de personnages qu'on croise, parce qu'on pourrait penser à un constat un peu désespéré, parce que entre les milices paramilitaires utilisées par les propriétaires terriens, les narcotrafiquants et les gangs des cartels, les ex-FARC qui n'ont pas rendu les armes, les manipulations du pouvoir politique et de l'armée, il est évident que il y a énormément de violences, de terreurs, de crimes abominables. Mais à côté de cela, le roman de Caryl Ferré met aussi en, 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 en scène des travailleurs, beaucoup de femmes, des travailleuses sociales courageuses, des journalistes indépendants dont Diana Douzane dont on a parlé, les personnages comme Flora qui aide à la réinsertion, et puis aussi l'action d'organisations non gouvernementales écologistes, voilà, qui essayent de sauver des lieux, des forêts magnifiques, comme le personnage de Camilo.
Oui, donc vraiment beaucoup de choses, mais des références aussi très, j'ai envie de dire, quasi... biblique dans ce roman. Bon, déjà la rivalité est très entre les frères, mais bon, il y a aussi une crucifixion, il y a même quelque part une résurrection,
parce que on ne peut pas tellement dire qu'il y a quand même également un réel ce roman, on le disait, sur 500 pages maintient quand même la formule est galvaudée, mais c'est on peut dire que c'est quand même assez haletant quand même, hein.
Tout à fait. Mais on s'était téléphoné il y a quelques jours. J'étais au milieu de la lecture. J'étais à la page 283 et je te disais, Hervé, mais j'ai déjà lu une bonne moitié du livre. Il s'est déjà passé plein de choses. Je vois qu'il me reste encore pas mal de pages. Et qu'est-ce qui va encore se passer? Et vraiment, ça n'arrête pas. C'est impressionnant
de ce point de vue-là. C'est tout à fait impressionnant. Je crois que moi, je pense que ce roman, il est absolument remarquable parce qu'il vaut par une très grande authenticité par rapport à un sujet tellement foisonnant et tellement comme le dit Ferré à un moment, non seulement la Colombie subissait le plus vieux conflit au monde, mais aucune population n'avait été aussi traumatisée par des morts violentes. Et il y a une extrême authenticité par rapport à tout cela, et en même temps, c'est un roman que je trouve tout à fait époustouflant, vraiment...
Bon, et puis avec alors c'est vrai que il le dit d'ailleurs, je pense, à un moment, Caril Ferré, on est dans la symbolique, la rivalité entre les frères, à l'image de la guerre civile qui frappe le pays. Mais c'est vraiment très 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 subtil, encore une fois, Caril Ferré, là, même si dans certaines scènes de crimes et de violence, on peut considérer qu'il y va avec ses gros sabots. Du point de vue atmosphère générale, regard sur cette société, là c'est très subtil.
C'est approche. Tout à fait subtil, et ça compense. C'est-à-dire que de toute façon, je pense que voilà, ce qui il y a de la violence forte, hein, effectivement. C'est une approche qui n'est pas gratuite, qui n'est pas évidemment qui est loin de tout voyeurisme. Je veux dire, je pense que c'est aussi une manière de parler au plus juste de la barbarie. Et finalement, là par contre, Caril Ferré est en écho évidemment d'une manière assez excessive, extrême. Mais on est en écho à Raymond Chandler quand il parlait du roman criminel et du rôle de l'écrivain, et qu'il disait ce n'est pas un monde reluisant, mais c'est celui dans lequel nous vivons. Et là, il parle de celui dans lequel vit la Colombie. Vivent les Colombiens.
Oui, partout des choses trappent dans cette histoire de famille, écrit Caril Ferré, qui ressemblait un peu trop à l'histoire de ce pays. Hervé, tu as un croisé Caril, il y a peu de temps, je crois, dans un festival
dans le festival au festival de Villeneuve-les-Avignons au début de l'automne, et je l'ai fait parler de Paz.
Voilà, et donc c'était vraiment le roman venait de sortir.
Oui, absolument.
Quel écho alors au niveau de cette présentation dans le public,
les gens, ceux qui avaient lu et puis ceux qui découvraient, mais étaient quand même assez Oui, c'est, je pense que c'est un livre absolument marquant, mais il y avait beaucoup de monde, parce que Caril Ferret, qui en plus parle avec passion, oui. Et donc attire le public. Il parle de ses livres avec passion parce qu'il les écrit, je pense, avec passion. Le mot est galvaudé, mais enfin le public était en général scotché quand même par la façon par la lecture pour ceux qui avaient lu et par la façon dont il en parlait également.
Radio PFM, variation.
C'est pas une musique de Taxi Driver, ça ?
Gagné, Hervé, un extrait de la bande originale.
Tu as parlé de références bibliques pour Paz, Scorsese, cinéaste de la rédemption, très joli.
Voilà, et donc une et musique signée Bernard Herrmann, et surtout parce que il y a le lieutenant Duke, l'adjoint de l'Oturo, qui se coiffe il se fait une coupe à l'Iroquois.
Comme Robert De Niro dans Taxi Driver. Et qui utilise, je crois, la fameuse réplique.
You talking to me? Se regarde dans le miroir. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, c'est aussi, je pense, quelque part un roman sur les solitaires, puisque les deux fils, ce sont des solitaires, les femmes sont des solitaires. Bon, et puis, bien sûr, le lieutenant Duke, solitaire par excellence. Et moi, ça m'a fait penser, donc. En fin de compte, j'ai revu il y a peu de temps Taxi Driver et j'aurais bien vu d'ailleurs le De Niro de Taxi Driver interpréter Angel par exemple, le frère qui est très 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 seul. Donc écoute Hervé, une lecture que forcément nous recommandons, donc Paz de Caril Ferret aux éditions La Série Noire. Ça ne se lâche pas, tu l'as dit, et c'est vrai. Et puis bon, on en ressort en ayant conscience que la situation est très très complexe en Colombie, mais il nous éclaire Caril Ferret. Alors je le disais en tout début d'émission, Caril Ferret a eu le prix Amila Mecker et Hervé, donc une petite nouvelle éditoriale, on a peu de temps pour en parler, mais il y aura d'autres moments, on en parlera notamment le 1er mai prochain à Reims. Tu as signé la présentation avec Stéphanie Delettré de la réédition de Nous avons les mains rouges de Jean Mecker, un roman qui était sorti en 1947, si ma mémoire est bonne.
Oui, c'est exactement ça.
Et qui évoque donc une période qui évoque la résistance, une période de la résistance.
Hervé. Oui, c'est ça qui est. C'est très intéressant parce que c'est le quatrième roman de Jean Mecker après Les coups, L'homme au marteau et la lucarne, qui étaient trois, une sorte de trilogie autour de la ville, autour du monde du travail, du couple, de la difficulté, de l'impossibilité quasiment de communiquer. Voilà, et là, on change complètement de lieu, puisque on est à la montagne et on est au lendemain de la libération. Et c'est d'ailleurs à noter, c'est que peu de gens, évidemment beaucoup de livres ont été écrits sur la période de la collaboration, de la résistance, etc. Mais peu ont été écrits à chaud, si on peut dire, puisque le roman paraît en 47. Et Mecker, qui lui-même a été dans la résistance, dans Lyon, mais qui a toujours été discret là-dessus, parce que Jean Mecker est quelqu'un qui se poussait pas du col et qui était pas du genre à arborer des et des faits d'armes, voilà. Mais il met en scène un jeune gars qui un gars de la ville, Laurent Lavalette, qui sort de prison, qui a besoin de se mettre au vert et qui va être hébergé par la famille Desarteau, le père qui est propriétaire d'une scierie dans laquelle Lavalette va travailler qui a deux filles et un homme à tout faire, Armand, et c'est je veux dire, cette petite tribu-là a été active dans la résistance pour le dire en deux mots, n'a pas réellement baissé les armes, c'est-à-dire que elle ne se satisfait pas du fait que la victoire a été gagnée, la France a été libérée, mais la justice ne règne pas plus qu'avant et voilà, enfin pour résumer très vite le point de départ du roman.
Alors, Hervé, donc, moi j'ai pas encore cette nouvelle réédition là aux éditions Joël Losfeld. Vous en avez déjà publié un certain nombre, republié. C'est un travail vraiment à saluer.
Oui, c'est le septième volume. Il y avait un inédit, La Marche au Canon, et 6 rééditions. Oui.
Et donc, moi j'ai le volume, une précédente édition, c'est aux éditions Ancrage, c'était dans les années 90. Et avec une préface signée Hervé Delouche, Mecker, Amila, l'écrivain réfractaire. Ce que je voulais dire, c'est que on décerne le 1er mai le prix Jean Amila Mecker. Mecker, donc, c'est le nom de plume à la blanche, et Amila, c'est le pseudo qu'il a choisi pour ses romans noirs publiés à la série Noire. Et c'est un prix du livre d'expression populaire et de critique sociale. C'est vraiment un auteur emblématique de cette littérature. Et donc je prends une phrase de cette préface que tu avais donnée dans les années 90 qui pour moi résume bien ce que peut apporter quelqu'un comme Jean Mecker. Sur un ton sobre mais puissant, sans lyrisme inutile ni niaiserie insipide, Mecker peint la vie des humbles et dénonce une société qui brise les rêves des hommes. On est vraiment dans la littérature d'expression populaire, parce que c'est quelqu'un qui vient du peuple, mais c'est aussi quelqu'un qui met en scène le peuple, et de critique sociale, dans la mesure où justement il donne la parole à ceux qui ne l'ont que très rarement, et puis surtout donc critique sociale aussi, parce que c'est ce que tu dis, il dénonce une société qui brise les rêves des hommes,
des humbles, de dire un peu laissés pour compte, mais c'est toujours sans pathos, et c'est pareil là, comme il évoque la résistance, certaines idées de justice, de trahison, on pourrait croire que ça va donner un roman en geste, une geste héroïque, des grands mots, des envolées lyriques, il y en a, mais justement Lavalette, qui est le témoin un peu de tout ça, même s'il n'est pas l'écrivain, mais il est le regard qu'il y a là-dessus et tout ça, justement, il a un regard, il a des espoirs, mais il est aussi très désabusé par ce genre de choses. Il y a, voilà, c'est une, c'est un roman. Il n'y a jamais de mystification dans les romans de Jean Mecker, qu'il parle de la résistance, du monde ouvrier, du monde du travail, mais il y a une volonté de comprendre, de restituer et de rester totalement à hauteur d'homme.
Voilà, nous avons Les Mains Rouges de Jean Mecker aux éditions Joël Losfeld, donc vraiment à lire. C'est un roman important de Jean Mecker, qui annonce, c'est ce que vous écrivez avec Stéphanie dans la présentation, qui annonce la période Amila, c'est-à-dire la période roman noir de Jean
Mecker. Totalement, parce que là aussi, on a évoqué plusieurs éléments nouveaux de Nous avons les mains rouges, mais un élément aussi, c'est que des rebondissements, des éléments de romans criminels, de romans noirs, donc sont à l'action, enfin sont présents dans ce livre et toujours évidemment le ton, la parole de Mecker, ça, elle est toujours la même et elle sera la même dans ces séries noires, mais il y a là des éléments qui annoncent les polars à venir, oui, absolument.
Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, à toutes et à tous, et merci.
Voilà, rendez-vous dans un mois donc pour de nouvelles variations en noir, et très bonne lecture en noir à toutes et à tous. Go, man!